Voilà, bonjour à tous. C'est toujours une joie d'être ici, de revoir des visages connus, certains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, là, qui étaient partis loin. Voilà. Vous savez, je suis toujours émerveillé de voir Jacques qui vient réparer le micro. C'est bon. Je suis toujours émerveillé de voir comment Dieu parle au travers de son esprit aux uns et aux autres, et il met ensemble ce que les uns et les autres ont reçu pour nous édifier. Et ce matin encore, à travers les paroles de présentation, à travers les chants, la louange, à travers les prières, à travers le partage pour la Sainte-Cène, je vois comment les choses convergent vers ce que Dieu veut dire, en tout cas vers ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Et donc c'est important ça, parce que c'est quand nous sommes en Église, le Saint-Esprit agit. Il agit dans nos cœurs, il agit dans nos vies individuelles, mais quand nous sommes en Église, ça, pour moi ça veut dire entre frères et sœurs, le Saint-Esprit parle au travers des uns et des autres. Et ça construit quelque chose, ça stimule quelque chose, ça libère quelque chose de plus que nous ne pouvons pas avoir quand nous sommes juste seuls avec le Seigneur. Donc ça, c'est aussi une grâce de Dieu que nous devons réaliser. Alors, je soulignerai d'ailleurs les différentes choses qui ont été dites et comment ça fait écho avec ce que je vais vous partager. On va lire dans Éphésiens 5. Je vous propose de lire du verset 8 au verset 17. Éphésiens 5, 8 à 17. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours une épée tranchante, qui vient nous visiter, qui vient nous parler, qui vient déchirer les voiles qui sont sur nos vies, dans nos cœurs, et qui vient faire paraître ta lumière, et qui vient nous révéler ton cœur, qui vient nous révéler ta volonté pour nous. Donc je te bénis, Seigneur, et je prie qu'aujourd'hui, personne dans ce lieu ne reparte sans avoir reçu quelque chose de précis, de particulier, et de précieux de ta part. Et non seulement reçu, mais pour emmener avec lui et pour laisser agir ces choses, et pour que cela réalise une transformation dans les vies de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme ça avait été dit dès le départ, dans la parole de présentation par Rémi, voilà, il a prié que Dieu nous révèle son plan à chacun. Et là, qu'est-ce qu'il est dit au verset 10, il est dit Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. » Et un peu plus loin, au verset 17, « Comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Mais des fois, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et j'ai beaucoup aimé quand on a chanté ce chant, j'avais la même pensée en moi, quand on a chanté ce chant, « Quand le feu de ton esprit vient pour purifier ma vie. » Et on est tous prêts à chanter ça, et on attend que le feu descende là, comme une flamme du ciel, et puis il vient purifier nos vies. Mais comme ça a été prié aussi par Maggie, des fois le feu du Saint-Esprit, il descend dans des actes et dans des situations qu'on n'attend pas, et où on ne le reconnaît pas. Des situations anodines, des situations qui semblent désagréables, qui semblent difficiles. Et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu peut bien apporter au travers de ça ? Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, et on y prend point garde. C'est dans Job 33. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Et donc, c'est vrai, Dieu, il nous parle, il nous appelle à discerner ce qu'il attend de nous, parfois à travers sa parole, très précisément, parfois à travers la prière, mais parfois aussi à travers les paroles des autres. Parfois à travers la vie des autres. Est-ce que quand vous voyez la vie des autres, quelque chose d'édifiant dans la vie des autres, ça ne vous parle pas dans votre propre vie ? Ou peut-être la vie des autres aussi, elle est comme un miroir de vos propres manquements, des propres choses que Dieu veut mettre en lumière et veut transformer dans ta vie. Et Dieu parle au travers des situations quotidiennes aussi. Je me souviens juste une petite anecdote. Quand on était parti en mission en Centrafrique dans le cadre des 40 jours de prière pour la nation qui appelait à l'humiliation, à la repentance et à changer et à quelque chose de nouveau dans la nation, un des premiers voyages, on était parti en équipe, il n'y avait que des difficultés sur le chemin, des retards dans les vols, des retards dans les correspondances. On s'est retrouvé bloqué 2 jours au Cameroun pour attendre la correspondance suivante. Et on s'est retrouvé dans un hôtel, et on était dans le salon de cet hôtel, et il y avait un immense écran de télé. À l'époque, donc c'était au début des années 2000, je n'en avais jamais vu de si grand. Un immense écran de télé, et puis on était en petite équipe, on discutait, et puis à la télé, naturellement, ça diffusait tout le temps. Et c'était un dessin animé qu'il y avait. Un dessin animé sur la vie de Christophe Colomb. Bon, vous allez dire, bon, qu'est-ce qui va nous édifier dans la vie de Christophe Colomb ? Et puis on ne regardait pas, on parlait entre nous, on parlait, par moments il y avait des silences, et à un moment il y a eu un silence, et qu'est-ce qu'on entend, alors qu'on n'écoutait absolument pas ? On entend, il y a un prêtre qui est en train de prier pour Christophe Colomb, et lui dit que Dieu te fasse réussir dans toutes tes entreprises. Et on a pris ça, et on savait que c'est Dieu qui parlait et qui nous disait, regardez, voilà, il y a plein d'obstacles, mais Dieu va vous faire réussir dans toutes vos entreprises. Et il a ouvert les portes et il a béni le reste du voyage et tout ce que nous avons vécu là-bas et au-delà. Alors ne dites pas que Jean nous a conseillé de regarder souvent la télé parce que Dieu parle à travers la télé, hein. Mais Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Et donc, je voudrais vous partager 3 situations récentes que j'ai vécues, au travers desquelles Dieu m'a parlé d'une façon particulière. Il a parlé sur ma vie, il a parlé sur ce que Dieu attend de moi et de nous, et il a parlé sur les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et parfois, nous ne réalisons pas tout de suite quand nous traversons ces situations. Parfois, ça prend un certain temps pour dire « Ah, mais oui, est-ce que Dieu ne veut pas dire quelque chose ?» Et particulièrement quand les situations se répètent ou convergent ensemble pour le message de Dieu. Première situation, une situation difficile. Cette année, vers le début d'année, nous avons perdu ma sœur aînée. Et donc c'était un départ bien sûr toujours douloureux, même si elle était malade depuis de nombreuses années, mais le départ a vraiment été accéléré. On n'a pas eu l'opportunité de la revoir juste avant. On avait prévu d'aller la voir et on est arrivé 24 heures après son décès on n'avait pas d'autre choix. On ne pouvait pas arriver plus tôt. Et son état s'est brusquement aggravé 3 jours avant et on n'a pas pu l'avoir. Mais Dieu est à l'œuvre même dans ces situations. Et Dieu m'a parlé à travers une situation qui ne semble pas très édifiante a priori, parce qu'il a fallu, bien sûr, outre les funérailles et toutes les choses à faire, il y avait à trier toutes les affaires. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on savait un peu ça, mais pas à ce point-là. Je pense que ma sœur avait comme quelque chose comme vous savez, les gens qui ont un achat compulsif. Et donc, elle achetait énormément, énormément de choses. Et on a retrouvé des biens dans sa maison, dans la maison de ma maman, mais aussi dans des box qui étaient dispersés en différents endroits, dans des quantités, mais inimaginables. Et pourtant, ma sœur, les dernières années de sa vie, du fait qu'elle ne travaillait plus à cause de la maladie, elle avait toujours la difficulté à joindre les deux bouts, elle menait une vie qui semblait difficile, et elle vivait dans une toute petite chambre, salon, et voilà, et elle se plaignait souvent de ne pas avoir les moyens. Mais en fait, l'essentiel de son argent partait dans des biens de consommation en quantité industrielle, notamment des vêtements. Et donc ça, c'était déjà un premier rappel. Bon, moi, personnellement, je suis pas un consommateur. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit pour chacun de nous sur cette société de consommation qui fait miroiter beaucoup de choses, qui nous séduit par beaucoup de choses? Qu'est-ce qui, dans ce monde, me séduit plus que le cœur de Dieu? C'est une bonne question à se poser. Peut-être ce n'est pas des biens de consommation en tant que tels, mais peut-être ce sont des activités, peut-être ce sont des choses que le monde fait briller. Qu'est-ce qui, dans ce monde, me séduit plus que le cœur de Dieu? Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Matthieu 6, 21. Et puis ce qui était étonnant, c'est donc qu'elle avait énormément de vêtements, d'articles d'électroménager, d'informatique, mais il y avait des choses, comme elles étaient dispersées dans plein d'endroits et qu'il y en avait tant, il y a des choses qu'elle avait en double ou en triple. C'est étonnant, quoi, qu'elle avait racheté et certaines qui n'étaient pas utilisées. Et donc ça, c'est parlant aussi, hein. Et donc pour moi, c'est pas pour... en vous partageant ça, je sais ce qu'a été la vie de ma sœur et les bons côtés aussi, mais je vois comment l'ennemi peut semer dans nos vies beaucoup de choses qui nous écartent de la voie à suivre, qui nous amènent loin de la volonté de Dieu. Et donc il y avait des choses oubliées, des choses en double, en triple, dispersées. Et tout ça, dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, m'a beaucoup fait réfléchir à ce que j'appelle le grand rangement de Dieu. Parce qu'on a beaucoup dû ranger, et on a dû rapatrier ses box, on a dû trier, on a dû jeter ce qu'il fallait jeter, donner ce qu'il fallait donner, prendre pour la famille a pris pour certaines choses. Et certaines choses, on a vendues aussi parce pour faire face à différents frais qui étaient là, liés au décès de ma sœur. Et donc, ça nous a montré tout ce travail, et ce travail n'est même pas encore terminé tellement il y a, plusieurs mois après, ce travail pour trier, évacuer l'ancien, mais aussi pour accueillir le nouveau de Dieu. Maggie, donc vous verrez sur elle, elle en a profité pour renouveler sa garde-robe. Donc si vous la voyez bien habillée, c'est pas parce qu'on a fait fortune soudainement, mais parce que Dieu est un Dieu riche et qui donne d'une façon ou d'une autre. Oui. Ouvre la parenthèse, vas-y. Mais je vais peut-être le dire, hein. Oui, vas-y. Je ne sais pas ce qu'elle va dire.
Ah bon. Thank you.
Amen. Après la parenthèse de Maggie, la parenthèse de son mari. Donc j'ai jamais dit qu'il fallait pas, mais j'ai dit à Maggie, range et trie d'abord tout ce qu'il y a à la maison avant d'accueillir le nouveau de Dieu, parce que ça déborde. Voilà. Et ça c'est une autre leçon. Comment trier l'ancien dans nos vies pour accueillir le nouveau de Dieu. Faire la part entre l'inutile, peut-être des vêtements qui ne te vont plus, mais peut-être des choses qui ne sont plus pour ce temps. Pas simplement des choses matérielles, mais des choses spirituelles. Faire le tri entre l'inutile et l'utile, entre le précieux et l'essentiel. C'est un appel aussi à hiérarchiser les choses dans notre vie. Quelles sont tes priorités dans ta vie ? Quelles sont tes priorités ? Où est-ce, pour connaître ses priorités, c'est facile, regardons où on passe du temps. Le temps est une chose précieuse. Là où nous passons du temps, souvent c'est nos priorités. Et donc, quelles sont les priorités ? Qu'est-ce que je dois hiérarchiser dans ma vie ? Quel rangement Dieu veut accomplir dans ma vie ? Et puis comme j'ai dit, ça permettait de retrouver des choses oubliées. Alors des fois, dans ce cas-là, des choses en deux, trois exemplaires. Mais est-ce que spirituellement, on n'a pas oublié des choses dans nos vies ? Est-ce qu'il y a des bénédictions de Dieu qu'on n'a pas mis en oubli ? Et on ne se rappelle même plus que Dieu nous a bénis. « Oh, tu sais, moi, le Dieu, il bénit le frère, il bénit la sœur, mais moi, pas vraiment. » Mais tu as oublié les bénédictions que Dieu a mis en oubli. Elles sont rangées ailleurs et tu les vois plus sous tes yeux, tu les mets plus sous tes yeux. Quelles sont les prières oubliées et que pourtant Dieu a exaucées ? Est-ce que ça vous est jamais arrivé ? Vous avez prié une prière, peut-être dans une situation difficile, prière d'un désir profond, et c'était une prière de Dieu. Et quand Dieu répond, vous ne vous rappelez même plus que c'est l'exaucement de la prière que vous avez priée des années avant. Qu'as-tu oublié des promesses de Dieu ? Donc, les bénédictions et les prières exaucées, rappelons-les nous, et peut-être Dieu est en train de nous rappeler ça, afin de louer Dieu. Les promesses oubliées de Dieu, rappelons-les nous pour pouvoir retravailler dessus, pour voir qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie, qu'est-ce que Dieu fait, et où est-ce que Dieu veut te mener dans ta vie. Comment il oriente ta vie. Et puis quand vous faites des grands rangements, des fois vous retrouvez des pièces éparses. Hein. Alors des fois il y a des choses complètement inutiles. Hein. Je pense même il y a un sketch de Gad Elmaleh là où il parle de ce pot qui est à l'entrée des maisons, dans l'entrée, et il n'y a que des stylos qui ne marchent plus, des trombones cassés, des choses comme ça. On a plein de choses comme ça, pas simplement dans nos appartements, mais dans nos vies. Dans nos vies, et même dans le domaine spirituel. Quelles sont les pièces éparses que tu retrouves et mises ensemble, elles font sens. Mais peut-être il y a besoin d'un grand rangement dans ta vie, dans ce que Dieu a fait pour pouvoir voir les pièces éparses et dire « Ah, mais ça prend sens !» C'est comme des pièces d'un puzzle qui maintenant représentent une image de ce que Dieu dit et veut faire dans ma vie. J'avais oublié ça. Et la pièce toute seule, là, elle ne me disait rien. Mais maintenant, parce que je fais un rangement physique dans ma maison, mais spirituel, en relisant ma vie, je vois les choses qui font sens. Prises une à une, elles n'avaient pas de sens. Mais ensemble, je vois ce que Dieu est en train de faire ou de me dire. Parfois, Dieu fait remonter des relations perdues à la mémoire. Et peut-être ce sont des personnes que Dieu t'invite à retisser les liens avec pour accomplir son plan. Des fois, Dieu nous ramène des relations oubliées comme ça, ou mises de côté, et parce qu'elles sont pour ce temps. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point ma sœur vivait sur un trésor, mais un trésor qui avait été mis de côté ou oublié, et elle vivait comme quelqu'un
qui avait peu de moyens, mais qui avait un trésor. Bon, en l'occurrence, des vêtements, plein de choses. Mais dans nos vies chrétiennes, est-ce que nous avons des trésors qui dorment? Est-ce que nous sommes assis sur des trésors et nous vivons nos vies chrétiennes pauvrement parce que nous ne réalisons pas les trésors que Dieu nous a donnés? Des trésors de dons spirituels que nous ne pratiquons plus, que nous ne développons pas. Des trésors de compétences et de dons qu'on va dire plus naturels, mais que Dieu nous appelle à développer pour épanouir nos vies et pour être une bénédiction pour les autres. Quel trésor as-tu laissé en route? Et ta vie dort parce que tu as oublié que tu es assis sur un trésor. Donc j'aimerais, on va aller plus loin, on va aller voir les deux autres points, mais j'aimerais juste prier brièvement pour ce grand rangement de Dieu dans nos vies. Seigneur, je prie que tu nous parles ce matin et peut-être tu nous montres des choses précises. Voilà, peut-être ça commence par ranger des choses dans nos affaires, mais tu vas nous amener plus loin. Et peut-être tu nous montres déjà des choses dans nos pensées, des choses dans nos histoires, des choses dans nos espérances, des choses oubliées, des choses qui ne prennent pas sens quand elles sont isolées, mais que tu veux nous rappeler comment elles se connectent ensemble et comment elles parlent de la part de Dieu pour transformer nos vies et pour nous aider à marcher dans ta direction. Seigneur, je prie que cette quête, ce grand rangement de Dieu dans nos vies va commencer et va nous faire retrouver des choses oubliées et va nous redonner du sens à nos vies à cause de ce que tu nous montreras et va libérer une louange et une nouvelle espérance devant Dieu. Amen. J'ai dit qu'il y avait trois choses. La deuxième chose, c'est qu'il m'est arrivé ce qui arrive de temps en temps dans nos vies, mais c'est arrivé en plus pas un bon moment, pendant l'été, juste avant la conférence de Gagnères, où nous participons chaque année, où nous sommes à la fois partie de l'équipe d'animation et nous faisons partie des orateurs. Et quelques jours avant, mon ordinateur a commencé à afficher un écran bleu et il ne voulait plus. À chaque fois que je le réallumais, et alors après, il te propose plein de trucs, une trentaine de possibilités pour réinitialiser, pour faire ceci et cela. Bon, j'ai tout essayé, sauf la formatage du disque dur, parce que là, tu perds tout. Et à chaque fois, des heures passées. À chaque fois, bon, tu as du suspense, là, tu dis, ah, ça va peut-être repartir. Écran bleu, retour au point de départ. Et heureusement, pendant cette convention, je suis tombé sur un frère qui se connaît bien en informatique et qui a eu vraiment la bonté et la patience de passer du temps là-dessus. Et au début, il pensait que c'était des problèmes de mise à jour, mais en fait, on s'est rendu compte que le disque dur était en train de mourir, en fait. Et on l'a sauvé, enfin, on l'a pas sauvé, non, on sauve pas le vieux disque dur, mais on a sauvé ce qu'il y avait dessus au dernier moment. Et il a pu me mettre un disque dur d'occasion qu'il avait à disposition sur place et récupérer quasiment toutes les données. J'ai perdu mes adresses mail, ça c'est un gros problème, mais à part ça, tout est là. Et donc c'est ce qu'on appelle souvent un reset, hein, en informatique. C'est un mot anglais, mais qui veut dire réinitialiser ou reboot, ça dépend en fait des situations. Mais peut-être vous voyez sur vos box, vous avez remarqué qu'il y a un tout petit bouton là, 8-7. Il faut passer un petit stylo dedans, là, vous appuyez, quand ça ne marche plus, tu appuies reset. Donc c'est un petit bouton, mais qui a souvent des grands effets. Hein? Et Dieu a mis des petits boutons de reset dans nos vies qui ont souvent des grands effets. Qu'est-ce que Dieu veut resetter, si j'ose dire, en toi? Dans ta vie, dans ta façon de marcher avec lui, dans tes relations, dans tes activités, dans là où tu passes ton temps, qu'est-ce que Dieu veut resetter? Et donc, Ce reset, souvent, ça vient quand il y a un programme qui, dont l'exécution n'a pas fonctionné et qui ça bug, tout est coincé, hein, ou alors comme ce disque dur. Et parfois, donc il y a eu un échec. Parfois, nous avons besoin de reset après des échecs dans nos vies. Échec personnel, échec professionnel, échec émotionnel, échec dans nos relations, échec spirituel au sein de nos communautés, au sein de notre marche avec Dieu. J'ai échoué. Et souvent, ça crée un découragement et parfois un renoncement. Mais Dieu veut nous revisiter dans nos échecs parce qu'il a un bouton de reset. Et est-ce que nous acceptons le bouton de reset de Dieu qui remet un nouveau disque dur? Et quand il remet un nouveau disque dur, comme j'ai dit, il n'enlève pas tout. Il garde sa création d'origine, il garde le fondement de départ. Mais il fait toute chose nouvelle aussi. Au château, on a une centrale incendie, enfin une centrale de prévention des incendies plus exactement, et il y a un petit bouton, ça n'a pas marqué reset, mais c'est marqué réarmement. Et s'il y a une simple coupure d'électricité, alors là tu le sais parce que ça fait bip. Donc si tu es dans le bureau, comme généralement j'y suis, ça fait du bruit, mais même à travers la porte, ça fait un bruit terrible qui dérange. Donc tu as vraiment envie de réarmer là, parce qu'il y a un bruit qui est insupportable. Mais si tu ne réarmes pas, ta centrale, elle n'est plus efficiente. Elle ne peut plus entrer en alerte s'il y a un feu. Donc c'est vraiment, vraiment très important de réarmer. Et donc tu fais quelques manipulations, tu réarmes, et à nouveau, ta centrale est efficiente. Elle peut te prévenir. Parfois, Dieu veut faire un reset dans nos vies pour que nous soyons alertes à ce qu'il est en train de faire. Que nous soyons en alarme, en alerte plus exactement, en alerte devant les séductions du monde, devant ce qui prend de la place dans ma vie, devant les dangers à venir, mais aussi pour être en alerte à ce que le Saint-Esprit dit. Et donc, restez alerte au Saint-Esprit dans nos vies, aux avertissements, et être capable de discerner ce que Dieu fait et ce que Dieu dit, ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Comprenez ce que le Seigneur veut faire au travers de vous. Tout à l'heure, j'ai parlé d'échecs et parfois de coups d'arrêt, de renoncement, et le mot reset veut aussi dire repartir à zéro. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas un démarrage à zéro qui rait toute ta vie. Mais ça peut enlever toute une partie, effectivement, de ta vie, comme un disque dur est enlevé. Mais ça, le but, c'est de revenir sur le bon fondement de Christ dans nos vies. Revenir sur le bon fondement. Et donc, quand tu nettoies un disque dur, quand tu enlèves un disque dur et tu en mets un nouveau, voilà, ça fait disparaître plein de choses, des choses utiles et des choses inutiles, des choses édifiantes et des choses peut-être qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Dans nos instruments, ordinateurs, tablettes, téléphones, portables, qu'est-ce qui est à la gloire de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas? Toutes sortes d'images, d'activités, de temps passé, dont certaines sont à la gloire de Dieu et d'autres ne sont pas à la gloire de Dieu. Et parfois, Dieu fait un reset pour que nous puissions faire le tri et nous recentrer sur ce qui est bon, juste et vrai. Toutes sortes de choses qui, finalement, détournent nos yeux vers le monde et anesthésient notre cœur, refroidissent notre cœur pour Dieu par toutes sortes de préoccupations et toutes sortes de temps passés qui vient anesthésier et refroidir notre cœur pour Dieu. Ça me fait venir juste un verset là-dessus qui me fait recouper ce que Didier nous a dit pendant la Sainte Cène. Romains 8, donc lui il a partagé Romains 6, mais Romains 8, verset 13. Il nous a parlé de mort et de vie. Et qu'est-ce que nous dit Romains 8, 13 ? Car si vous vivez selon cette nature pécheresse, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais, ou les actes de la chair, dans d'autres versions, si vous faites mourir par l'Esprit les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On pourrait dire aussi, ceux qui sont fils de Dieu devraient être conduits par l'Esprit de Dieu. Quelle recette Dieu met dans nos vies pour un nouveau départ? Pensez à une histoire biblique, hein? Abraham, Dieu met un reset dans sa vie à un moment donné. Il vit dans un pays idolâtre et lui, il est torturé parce qu'il a un désir de Dieu. Il n'a pas une grande révélation encore de Dieu, mais Dieu lui parle. Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Un reset, c'est aussi quelque chose de... Il y a une décision, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est souvent aussi un processus. Et Abraham part, mais on sait qu'il va s'arrêter à Charan pendant plusieurs années, jusqu'à la mort de son père, avant d'arriver dans le pays promis. Et après, il va passer un certain temps en Égypte. Et là, il ment par rapport à l'identité de son épouse. Et là encore, c'est un nouveau retard, mais Dieu transforme ça dans sa grâce. Et finalement, Abraham, progressivement, à travers plusieurs resets, il entre dans le plan de Dieu. Donc, faisons attention au processus que Dieu met dans nos vies et les différents resets auxquels il nous invite à certaines périodes de nos vies. Et peut-être certains pensent, quand je parle de reset, peut-être certains vous pensez à The Great Reset. Vous avez entendu, il y a des gens qui ont entendu parler de ça, The Great Reset. Voilà, ça c'est un livre qui a été écrit, The Great Reset, et c'est un plan des hommes et particulièrement des grandes entreprises. C'est né au forum de Davos, au forum économique de Davos. Et c'est un grand plan pour transformer le système ancien en un système nouveau, mondial, global, qui sera basé sur l'intelligence artificielle, qui sera basé sur les très grandes entreprises qui vont avaler toutes les initiatives personnelles, toutes sortes de choses. Voilà, c'est un great reset, mais c'est pas le great reset dont on veut, parce que Dieu n'est pas au centre. Ce qui est au centre, c'est l'homme-Dieu. C'est l'homme qui se fait Dieu. Et donc, ça c'est une réalité, et dont on doit être conscient. Mais finalement, quel est le plus grand reset de l'histoire? Quel est le plus great reset de l'histoire, d'après vous? Hein? Oui, ah oui, c'est vrai, j'ai même pensé à celui-là. Oui, Jésus à la croix, effectivement. Disons que, oui. Oui, c'est bien sûr, c'est un exemple par excellence. Mais il y en a un autre dont on voit tout de suite les effets, tellement Pardon ?
Apôtre Paul, pourquoi ? Ah oui, d'accord. Alors, oui, voilà, c'est des changements dans nos vies. Mais moi, je parle d'un reset planétaire qui a changé, parce que là, on parlait de Great Reset. Oui. Voilà, Maggie. Non, en plus, elle ne le sait pas parce qu'elle n'était pas là, mais j'ai partagé là-dessus. Le déluge et l'arche de Noé. Paf, la terre, tout est éradiqué. Hein, toutes les espèces meurent, mais il y a une solution de Dieu. Et quelque chose de nouveau va démarrer. Un nouveau départ, mais qui part de la création de Dieu, qui part de l'identité de l'homme, qui parle de la notion de famille chez les animaux et chez l'homme. Et Dieu va donner une nouvelle alliance. Mais c'est une nouvelle création dans le sens qu'ils vont repeupler la terre. C'est dans quelque sorte une nouvelle création et Dieu va donner une nouvelle alliance à Noé. Donc, voilà, on peut être effrayé ou inquiet des great resets que l'homme est en train de préparer, mais n'oublions pas que le plus grand reset de l'histoire qui a changé la face du monde, c'est Dieu. Avec sa solution, avec ses objectifs et avec son accomplissement. Mais je suis d'accord que la réponse de Jésus
est très bonne aussi. Et après, l'œuvre de Jésus dans chacune de nos vies, comme l'apôtre Paul, comme chacune de nos vies. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, il a un grand reset pour chacun de ses enfants, pour ses enfants et pour son Église. Dieu n'est pas surpris par les great resets de l'homme. Il n'est pas surpris par ça. Parce qu'il a anticipé et il sait. Mais peut-être dans ce temps où les choses sont bouleversées, où les choses sont mises sans dessus dessous, Dieu a besoin d'un reset dans son Église et dans chacune de nos vies pour être capable de faire face et de faire les bons choix face aux temps difficiles que nous traversons. Et donc, Dieu, ça c'était mon second point, le grand reset de Dieu, à travers ce changement de disque dur qui pour moi a été une illustration de ça. Dans ces temps, Dieu nous invite à son grand reset qui consiste à revenir sur la première révélation en tant que personne et en tant qu'Église et à reconstruire sur le fondement de départ, c'est-à-dire, vous savez, on a une expression en français que je trouve étrange, qui dit, en politique, ils disent souvent ça, « Ah, il faut remettre l'Église au centre du village. » Vous n'entendez jamais ça ?« Ah, il faut remettre l'Église au centre du village. » Bon, c'est bizarre parce que c'est des laïcs qui disent ça, mais c'est tellement ancré dans leurs expressions. Ça veut dire, bon, il faut revenir vraiment au cœur du problème, et qu'est-ce qui est important, etc. Mais moi, je dirais, il faut remettre Jésus au centre de l'Église. Bon, l'Église au centre du village, c'est bien, mais si Jésus n'est pas dans l'Église, c'est plus embêtant. Et donc, Dieu nous appelle à un great reset, un grand reset, qui est de remettre Jésus au centre de ta vie, au centre de ma vie. Jésus, sa personne, son œuvre de justification, sa grâce gratuite, ses desseins. Quel dessein pour ma vie ? Sa venue, son retour et sa gloire. Et ça, il veut le faire pour chacun de nous, il veut le faire pour son Église. Le grand reset de Dieu. Dernier point, rapidement. Je sors ma montre, mais ce n'est pas pour regarder l'heure. C'est parce qu'en fait, c'est la troisième chose qui m'est arrivée avec ma montre. J'ai acheté cette montre il y a 12 ou 13 ans. Et je n'ai jamais changé la batterie. Et dessus, il est marqué, vous pourrez vérifier si vous voulez, batterie garantie 10 ans. Quand j'ai acheté la montre, j'ai dit, oh, je ne crois pas à ça. 12 ans. Presque 13 ans elle a tenu cette. Mais ces derniers temps, elle ralentissait cette montre. Et alors tout récemment, elle s'arrêtait régulièrement, mais bizarrement, elle s'arrêtait toujours entre midi et demi et 1h30. Alors dans la journée, c'est pas trop embêtant, mais dans la nuit, au matin, tu te réveilles et puis tu penses que tu es à l'heure, mais en fait, parce que tu dis, oh, il est que minuit et demi, je peux dormir encore. Mais non, il est déjà 7h du matin. Mais. Et donc j'ai eu ce problème-là, et puis je suis allé chez des petits horlogers dans les grandes surfaces, et ils testent ma montre. Enfin, au début, il y en a plein, ils disent « Oh là là, on n'ouvre pas votre montre, c'est compliqué, on ne sait pas la faire. Bon. » Et puis finalement, il y a quelqu'un qui teste ma montre, il dit « Ah non, elle est bonne, votre montre, on voit l'aiguille qui part vers le vert comme ça. » Je dis « Mais vous savez, elle a 12 ans, cette batterie-là. » Donc la personne me regarde avec des grands yeux. Et finalement, il y a enfin quelqu'un qui non seulement a osé prendre la pile, mais la changer et remettre toute la montre. Et il y avait effectivement la batterie marquait le vert, mais elle avait faibli. Et quand j'ai remis l'autre nouvelle batterie, la montre est repartie. Mais je pense qu'il y a un autre problème qui est sur les aiguilles, mais ça je vais en parler un petit peu après. Et donc, question. Est-ce que ta batterie est à plat ? Est-ce que ta batterie est à plat ? Et peut-être les apparences te montrent autre chose. Est-ce que vous avez remarqué quand vous tombez en panne d'essence, la voiture ne s'arrête pas tout de suite. Hop, elle fait encore un peu de route comme ça. Bon, tu sais que tu es en panne d'essence. Hein. Mais, enfin, moi, ça m'est arrivé quelques fois parce qu'on avait un problème sur notre voiture. Donc, la jauge ne marchait plus. Donc, on est tombé 2-3 fois en panne d'essence. Et donc, la voiture, elle continue. Et des fois, ta vie continue alors que ta batterie est à plat. Et donc, tu as l'impression que tout se passe bien. Surtout quand tu te nourris d'une vie un peu religieuse, un peu routinière. Oh, tout va bien, je continue les mêmes choses. Mais peut-être ta batterie,
Elle est sur le point de lâcher. Et donc, Dieu, des fois, il nous met ça en exergue. Il y a toujours une inertie dans les véhicules, que ce soit en vélo, quand tu t'arrêtes de pédaler, en voiture, quand il n'y a plus d'essence. Et des fois, il y a une inertie dans nos vies qui nous pousse à continuer les mêmes actions, mais en fait, la batterie de Dieu n'est plus là. Quelque chose doit changer. Peut-être on n'est plus dans la bonne direction. Peut-être on n'a plus le cœur et le désir pour Dieu. Quel désir pour Dieu ? Quel amour pour Dieu ? Quelle force et quel zèle Dieu veut recharger dans ta vie ou changer dans ta vie ? Et puis, une autre question que je me suis posée, avec cette montre-là qui s'arrêtait tout le temps à la même heure en plus, elle s'arrêtait, et je me disais, mais est-ce que je suis à l'heure de Dieu ? La pensée qui m'est venue, mais est-ce que tu es à l'heure de Dieu ? Dieu a un agenda, il y a des temps particuliers que nous traversons, et Dieu veut nous ajuster à ces temps nouveaux. Est-ce que je fonctionne dans l'ancien agenda de Dieu ? Ou est-ce que j'entre dans le nouveau agenda de Dieu ? Est-ce que je suis ajusté à ce que Dieu veut faire aujourd'hui, au temps de Dieu et à l'agenda de Dieu pour aujourd'hui ? Peut-être tu crois que tu es dans un temps où il faut te replier parce que tu n'es pas ajusté sur le temps de Dieu. Et Dieu dit non, c'est un temps d'opportunité pour ouvrir tes ailes et pour te déployer. Peut-être tu es dans un temps où tu dis « Ouh, les temps sont mauvais, restons cachés ». Qu'est-ce que nous dit la parole ? Elle nous dit profiter des occasions, de toute opportunité, parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont mauvais, ne reste pas caché, mais saisis toute opportunité favorable de Dieu, le temps kairos de Dieu, pour accomplir et entrer dans ses œuvres. Quel temps nouveau Dieu veut instaurer dans ma vie, dans ta vie ? Quel temps nouveau. Et alors, depuis que j'ai changé ça, c'est bizarre. Je pense qu'il y a eu un choc. Et de temps en temps, progressivement, la montre, elle prend un peu de retard. Et de temps en temps, je dois remettre une ou deux minutes d'avance à la montre. Et assez régulièrement, je dois la réavancer. Mais je prends ça comme, pour l'instant, un exercice de Dieu. Vous allez dire, mais pourquoi il ne change pas sa montre hein? Comme il a changé. Mais je pense que c'est un message de Dieu qui me dit, ajuste régulièrement ta vie à mon temps. Ajuste régulièrement ta vie à mon temps, pas à ton temps. Et donc, ce petit travail me rappelle toujours ce que Dieu me dit, ce que Dieu veut faire, et je remets toujours une ou deux minutes d'avance où je récupère plus exactement une ou deux minutes que la montre perd. Amen. Voilà, alors on va prier. Donc, peut-être ce matin Dieu t'a parlé de grands rangements dans ta vie. Peut-être Dieu t'a parlé au travers du grand reset qu'il veut faire dans ta vie, ou du petit reset dans certains domaines de ta vie. Et peut-être Dieu te parle de son temps et de t'ajuster à son temps. Seigneur, je prie que tu viennes ouvrir nos yeux sur ce que tu dis et sur ce que tu fais. Seigneur, on ne veut pas juste continuer dans nos habitudes. On ne veut pas juste continuer dans quelque chose qui a tourné, qui a fonctionné, mais dont les batteries sont à plat. Seigneur, donne-nous l'humilité de reconnaître quand nos batteries sont à plat. C'est l'opportunité pour toi de les recharger ou d'en changer pour que nous puissions avancer à nouveau avec toi. Seigneur, peut-être il me manque de l'amour de Dieu, peut-être il me manque de la patience de Dieu, peut-être il me manque du discernement de Dieu pour ce que tu fais. Et Seigneur, je prie que dans ces temps, tu viennes nous parler, que nous te laissions parler. Qu'est-ce qui doit être renouvelé dans nos batteries au travers de ta parole, au travers des temps de prière, au travers de l'écoute des autres, au travers de la relecture de ma vie afin de comprendre ce que tu dis et ce que tu fais. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux sur les pièges qui peuvent être sur notre route et dans lesquels nous tombons si facilement si on ne te laisse pas éclairer nos cœurs et renouveler toute chose en nous.
Donne-nous de mesurer les enjeux de ce temps et donne-nous de mesurer notre foi afin de te laisser l'élargir et la faire grandir en nous. Seigneur, merci de montrer à chacun ton chemin pour ce temps pour ce temps. Viens nous visiter, viens nous libérer des choses anciennes qui nous encombrent, qui encombrent nos maisons, qui encombrent nos vies, tout ce qui nous séduit, tout ce qui nous éloigne de toi. Seigneur, recentre nos yeux et nos cœurs sur toi. Et je prie que ce feu du Saint-Esprit dont nous avons parlé, nous soyons capables de dire « viens », même s'il vient dans des choses anodines, même s'il vient à travers des paroles de personnes qu'on n'aurait pas attendues, même s'il vient à travers des situations difficiles, je prie que nous sachions le reconnaître, reconnaître ton pas, reconnaître ta voix et les laisser entrer en nous et faire ton œuvre de réajustement de 8-7 en nous pour être prêts à tenir et à accomplir tes œuvres dans ces temps difficiles. Mais dans ces temps d'opportunité, dans le nom de Jésus, fais-le aussi dans nos familles, Seigneur, et dans nos situations familiales, où nous avons prié pendant des années et nous n'avons pas vu. Mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas un temps d'opportunité, contrairement à ce que nous pensons, parce que les temps difficiles sont là, et parce que les cœurs sont préparés, si le mien est prêt pour entrer dans ce que tu dis, dans le nom de Jésus. Amen.